8h26 à Rage Against le matin. Vous le savez, on est avec vous jusqu'à 10h. Évidemment, lorsqu'on décide de s'établir près d'un cours d'eau, comme par exemple, choisis n'importe quoi, là,
ouais, vas-y donc.
Le fleuve.
Hein, le fleuve Saint-Laurent?
Ouais, mettons.
Et c'est à Québec, ça?
Mettons que t'es Québec.
OK, ouais.
Puis tu décides de t'établir près du fleuve.
Ben là, y a-tu des ponts pour nous aider à traverser? Y en a-tu assez?
Ben, je pense que là, à l'époque, faut que tu détermines ce que tu vas faire, justement, comme déplacement inter-rive.
C'est vrai.
C'est un débat en 2024. Est-ce que ça a été un débat ou une discussion ou une problématique ou un défi il y a 10, 20, 50, une centaine de... Hey, mettons, là!
Impossible, il n'y avait pas de char dans ce temps-là. Donc, on ne pouvait pas vouloir passer d'une rive à l'autre.
On a demandé à l'historien Lilo Despalais, Alex Tremblay-Lamarche. Vous l'avez déjà entendu à Rage Against le matin, on trouve toujours une discussion très intéressante, de passer nous voir en studio pour justement parler un petit peu de l'historique des déplacements inter-rives qui a toujours été source de défis pour la région. Ça se peut-tu?
Bien sûr, ouais. Ça a toujours été source de défis. Hein? À partir du moment où on s'installe à côté d'un cours d'eau, bien forcément, il va y avoir une volonté de passer d'un côté à l'autre. Et avant même l'arrivée des Occidentaux, bien c'est un enjeu pour les Premières Nations, hein? Parce que les Premières Nations vont faire l'aller-retour entre, grosso modo, le site du Vieux-Lévis et le site de Place-Royale, ouais. Où ils s'installent des deux côtés. Et donc, dès les débuts, effectivement, il va y avoir de la mobilité entre les deux rives, mais en canot.
OK. Avant les ponts, fait que après l'arrivée des premiers colons, comment on... évidemment, là, justement, je dis avant les ponts, il n'y en a pas à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on utilise comme option pour traverser entre les deux rives?
On utilise encore une fois le canot où on va utiliser des petits bateaux. On va avoir toute une industrie qui va se développer, notamment à Lévis, qu'on appelle l'industrie des passeurs. Et donc, c'est souvent des petits entrepreneurs, j'aurais envie de dire, qui vont avoir un petit bateau et qui bon, font l'aller-retour entre Québec et Lévis et l'offrent aux gens. Ça va être particulièrement important. Au début du 19e siècle, on parle du tiers de la population de Lévis qui travaillait pour l'industrie des passeurs ou qui bénéficiait effectivement de cette industrie. Et il va falloir attendre le début du 19e siècle pour qu'il y ait vraiment un premier service de traversier qui soit mis en place. En 1818, à l'initiative du seigneur Caldwell, mais on est dans quelque chose de complètement différent d'aujourd'hui pour différentes raisons. Premièrement, c'est le secteur privé qui l'opère. Et donc, comme les profits ne sont pas toujours au rendez-vous, ben, l'opérabilité de la chose va fluctuer dans le temps. Et deuxièmement, ben, on opère ça au charbon, mais on opère ça aussi au cheval. Et donc, on a des espèces de manèges sur les traversiers qui sont poussés par des chevaux et qui alimentent des roues à aubes qui tournent, qui font tourner le traversier.
C'est le fameux, quand on dit, je pense, chevaux vapeur. Ça vient-tu? Ça, non, pas pantoute, je sais pas.
C'est exactement ça.
OK. Oh, ouais. OK.
Et donc, c'est des bateaux qui vont être à vapeur et il va y avoir des bateaux aussi actionnés par des chevaux. Donc, c'est ces deux types-là de bateaux qui se croisent au 19e siècle sur le fleuve.
Puis à ce moment-là, dans des bateaux de quelle ampleur? Tu sais, sur des bateaux qui peuvent accueillir des centaines de personnes comme on voit avec les traversiers actuels?
Plus on va aller dans le temps, plus les bateaux vont être capables d'accueillir du monde. Je dirais que quand on était à la fin de l'époque de la Nouvelle-France, début 18e, on était encore dans des petits canots avec peut-être une dizaine de personnes max. Alors que lorsqu'on arrive au 19e siècle, bien là, on va avoir des bateaux plus d'une cinquantaine, une centaine de personnes. Et à la fin du 19e, bon, on est dans quelque chose qui, je dirais, a peut-être la moitié de l'ampleur des traversiers actuels, mais comme il n'y a pas de voiture dessus, eh bien, on est capable de transporter quand même pas mal de monde.
Mais Alex, tu parles de voiture. C'est à quel moment qu'on réalise ou on décide, hey, on a besoin de quelque chose d'autre pour traverser d'une rive à l'autre? C'est à quel moment que ça arrive qu'on dit, OK, les traversiers, ça ne fait pas nécessairement la job, si on veut dire?
Je dirais que c'est à partir du milieu du 19e siècle, parce que ce qui va amener les gens de Lévis et de Québec à vouloir un premier pont ou un premier tunnel, c'est vraiment l'arrivée du chemin de fer. Et les premiers à vouloir un pont, ce n'est pas les gens de Lévis. C'est les gens de Québec.
Okay.
Parce qu'en 1854, il y a ce qu'on appelle le Grand Tronc, qui est grosso modo le chemin de fer qui relie bon, les provinces des Maritimes aux provinces de l'Ontario. Et bon, ben, il passe par Lévis. Et bon, ben, ce que ça va faire, c'est qu'à partir de cette époque-là, ben, le commerce se développe énormément à Lévis. Et bon, ben, comme Québec n'est pas rejoint par le chemin de fer, ben, l'économie de Québec étouffe. Et donc, j'avais une petite stat pour vous. Entre 1861 et 1881, l'accroissement de Lévis est de 82 % tandis que celui de Québec est de 6 % Et donc, il y a vraiment une grosse différence de développement grâce au chemin de fer. Et à partir de cette époque-là, bien, c'est les gens de Québec qui vont constamment réclamer un lien entre Québec et Lévis pour être capable de profiter du chemin de fer. Mais le lien qu'on veut à l'époque, c'est pas un lien pour être capable de passer nous. Ou, bien, quand on veut passer, ça va être en train. C'est plus pour faire passer des marchandises. Passe, okay. On veut que le train passe.
C'est vraiment pour développer le commerce à Québec parce que là, les commerçants de Québec sont en manque de marchandises par rapport à Lévis.
Exact. Et bien, les commerçants de Québec vont être capables d'avoir les marchandises. Mais qu'est-ce qui se passe? Les marchandises arrivent par train à Lévis, ouais. Elles stoppent là, puis elles traversent à Québec. Donc, on rajoute une étape et ben, ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir tout plein d'hôtels qui vont naître dans le Vieux-Lévis, tout plein, effectivement, d'entreprises parce que souvent, c'est plus facile d'être là. Et donc, il y a vraiment une volonté de se doter d'un pont ferroviaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à ce qu'on ait le pont de Québec, il va y avoir des traversées ferroviaires. Donc, il faut imaginer une espèce de bateau qui fait à peu près la grosseur d'un wagon de train sur lequel il y a des rails. Et donc, on va mettre un wagon sur le bateau. On traverse le wagon vers le port de Québec et on est capable de le décharger de ce côté-là. Donc, on a eu ce genre de bateau-là à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui faisait la traverse entre Québec et Lévis pour les wagons de train.
Y a-t-il un gros débat par rapport au pont pour le train? À cette époque-là ou...
Je dirais que ça... Il y a toutes sortes d'idées qui vont s'échanger à l'époque. Hein? Dès les années 1860, il y a des gens qui vont dire « ça nous prend un tunnel à Québec, un tunnel ferroviaire qui passerait entre Québec et Lévis ». C'est des recherches menées par Catherine Lachaussée qui ont permis de le mettre de l'avant. Donc, il y a ce genre de débat-là dès les années 1860 dans les journaux de l'époque.
Fait qu'on parle déjà d'un tunnel en 1860. Ouais. Si là, on n'avait pas réussi à relier les deux rives, là, justement, puis on va y arriver avec comment qu'on les a reliés, est-ce que Lévis serait plus gros que Québec présentement?
Assurément. C'est ce qui est en train de se passer au 19e siècle à l'époque. Lévis grossissait. Québec, bon, allait mal. Il faut dire aussi que Montréal était déjà rejoint par le train et par un pont depuis le milieu du 19e siècle, le pont Victoria, qui est un pont ferroviaire. Et donc, ça permettait à Montréal de rejoindre la côte est américaine 365 jours par année. Mm-hmm. Quand le fleuve gèle, eh bien, le transport des marchandises par bateau s'arrête. Et donc, il y avait tout cet enjeu-là avec le train. Par contre, quand le fleuve gèle, bien, ça permet une autre mobilité interrive. Au 19e siècle, on a ce qu'on appelle les ponts de glace.
C'est vrai.
Entre Québec et Lévis. Et on a tout plein de toiles de l'époque qui permettent de voir ce à quoi ça ressemblait. Et c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Là. C'est pas juste l'idée de traverser d'un endroit à l'autre. Il va y avoir sur les ponts de glace ce qu'on appelle des caboulots. Grosso modo, c'est des petites cabanes où on vend de la boisson. Faut imaginer quelque chose qui peut ressembler un petit peu à Saint-Anne-de-la-Pérade, okay, avec plein de petites cabanes. Mais les gens sont pas sur la glace pour pêcher. Ils sont plutôt là pour, bon, parler, festoyer, etc. Parce qu'il y avait de la réglementation à Québec. Tu ne pouvais pas ouvrir une taverne n'importe où. Il y avait de la réglementation à Lévis,
c'est bon,
mais sur le fleuve.
Pas entre les deux.
Tu n'es pas supposé être capable d'ouvrir une taverne. Donc, il n'y a pas de réglementation. Fait que pendant l'hiver, quand il y a un pont de glace, il y a tout plein de gens qui profitent de ce brèche-là pour ouvrir des petits débits de boissons. Et donc, ben oui, c'est un endroit où on traverse, mais c'est un endroit aussi où on en profite pour lever le coude un petit peu.
Une pierre deux coups. C'est ce qu'on dit. Hey, on jase de l'histoire là, du déplacement interrive Québec-Lévis avec l'historien Alex Tremblay-Lamarche. Alex, bon, on retourne à ce moment-là, on a finalement notre pont pour le train. Ça, ouais, c'est bien beau, mais arrivent les voitures, puis ça change la game. Là.
Exact, parce que, bon, on va se doter du pont de Québec à la fin des années 1910, mais à la base, ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que le pont de Québec, c'est deux voies pour les trains. Et faut attendre 1929 pour qu'on mette une première voie pour les voitures. Et par la suite, ça va être 1948-1952 pour qu'on démantèle une des deux voies de train pour mettre les trois voies de voitures qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est un principe d'offre puis de la demande. Hein? À partir du moment où c'est facile d'aller sur la rive sud, qu'il n'y a pas trop de trafic, bien, il va y avoir des gens qui vont s'établir. Puis quand ça commence à être congestionné, bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit, ben, les gens vont arrêter de s'établir là, puis vont plutôt s'établir ailleurs parce que, bon, au final, on va être capable de se rendre au boulot le plus rapidement possible dans les lieux de consommation. Ou soit, on augmente l'offre. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en 1970 en construisant le pont Pierre-Laporte. Et la construction du pont Pierre-Laporte va vraiment permettre tout le développement de la Rive-Sud. Avant, effectivement, qu'on regarde des vues aériennes dans les années 1960, la Rive-Sud, c'est quoi? C'est un amas de villages. Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Nicolas, ouais. Lévis, Saint-David, etc. C'est vraiment des petits villages agricoles. Il y a, oui, Lévis qui, bon, a un pôle un petit peu plus important grâce au train, mais c'est tout plein de petits villages. Et ces villages-là vont vraiment se développer énormément à partir des années 1970 grâce au pont Pierre-Laporte.
Et là, par la suite, ben, on a le pont Pierre-Laporte, on avait le pont de Québec, mais je veux juste revenir sur le pont de Québec parce que il y a quand même eu des difficultés à sa construction. T'sais, comment tout ça s'est passé, puis qu'est-ce que ça l'avait amené côté commerce?
Oui, ben, le pont Pierre-Laporte, ça a quand même été, je veux dire, le pont de Québec. Le pont Pierre-Laporte, ça a relativement bien été. Mais le pont de Québec, oui, il est tombé deux fois lors de sa construction. Mm-hmm. La première fois, c'est la partie au sud. Hein, mettons le pont de Québec, si on y va de manière un peu schématique, c'est deux espèces de formes en losange avec une espèce de demi-cercle au centre. Le demi-cercle tient grâce aux deux formes en losange qui, bon, le tiennent un peu serré entre les deux. La première partie du côté sud tombe lors de la construction. Et bon, ben, lorsqu'on va hisser ensuite la partie du centre, elle va tomber dans l'eau. Elle est d'ailleurs toujours dans le fleuve. Et on peut voir aux marées très basses de l'automne aussi les restes de la partie sud du pont de Québec qui est tombée. Celle du centre, bien entendu, on ne la voit pas parce qu'elle est vraiment au fond du centre du fleuve. Mais à l'automne, quand il y a des marées très, très basses, des fois, on voit les restes du premier pont de Québec qui est tombé du côté sud. Donc oui, il y a eu tout plein d'enjeux de ce côté-là. Mais finalement, on a persévéré et on était capable de construire le pont de Québec, qui est considéré comme une merveille d'ingénierie. Hein? On l'oublie trop souvent, mais c'est le plus long pont cantilever au monde. La longueur d'un pont cantilever est constatée avec la longueur de la travée centrale, parce que c'est un peu ça le génie du pont. Hein? C'est pas tant la longueur du pont, mais c'est la partie centrale, elle tient uniquement grâce à la pression qu'on applique sur elle. Et donc, être capable de faire tenir cette partie-là, c'est vraiment ça qui est compliqué. Et donc, le pont de Québec a réussi cet exploit-là au début du 20e siècle.
Wow. Alex Tremblay, là, je veux pas t'embarquer dans un débat politique, mais je te pose quand même la question, ouais. Parce que, tu sais, on veut apprendre et savoir ce qui s'est passé avant pour mieux connaître ce qui s'en vient. Si on se base sur le passé et l'histoire des déplacements interrives, on étudie pour un troisième lien ou un autre lien entre Québec et Lévis?
Ça, c'est tout un débat sur lequel je préfère ne pas me prononcer. Mais,
je comprends pas.
Mais je vous dirais que ben, c'est une question qu'on se pose à Québec depuis longtemps. Comme je vous le disais, il y a eu des projets de tunnels dès les années 1860, de tunnels par train. Puis, ben, tout au long du 20e siècle, il va y avoir toute une série de projets. Les recherches menées par Catherine Lachaussée l'ont bien montré, entre autres. Dès les années 1950, le maire de Québec, Wilfrid Hamel, va avoir un projet de faire un pont entre un tunnel, je veux dire, entre la Rive-Sud et Québec, qui sortirait dans le coin de la gare du Palais. Le maire de Lévis est assez sceptique, et donc il va nouer son partenariat avec le maire de Saint-David, juste à côté. Et c'est une série d'investisseurs américains qui disent, écoutez, on va faire un tunnel à péage, pardon, et on va partir ça de la Rive-Sud jusqu'à la Rive-Nord. On veut que pendant 25 ans, il n'y ait aucun autre pont ou tunnel qui soit construit, donc avoir ces certitudes-là. Et on veut avoir aussi des exclusivités sur les berges. Le premier ministre Duplessis va être un petit peu sceptique parce qu'il a l'impression, effectivement, que ces Américains-là, ils veulent avoir des privilèges sans être vraiment mettre de l'argent. Le projet s'appelait le projet Lenut, donc tunnel à l'envers. Et il va finalement mourir en 1969. Parallèlement, il va avoir le rapport Vendry-Jobin en 1968 qui va sortir. Ça, c'est des urbanistes qui ont étudié un petit peu la mobilité à Québec. Eux autres en étaient arrivés à la conclusion que, oh mon Dieu, Québec, ça va tellement être congestionné dans 40 ans, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on développe à fond des autoroutes. Et donc, c'est ce qui va amener le développement de bon nombre d'autoroutes dans les années 60-70 à Québec, et aussi le projet de faire un pont qui aurait parti grosso modo, bon, à peu près là, du Vieux-Lévis, et qui serait arrivé dans le secteur du Port. On a des images de l'époque qui imaginent Québec vers l'an 2000 avec ce pont-là. Donc, il y avait ce projet-là qui, finalement, ne s'est pas réalisé parce que, bon, ben, le rapport Vendry-Jobin, par la suite, a été revu, puis on s'est dit, bon, ben, on a fait de Québec la ville avec le plus d'autoroutes par kilomètre, de kilomètres d'autoroute par habitant au Canada. Mais cette statistique-là, effectivement, n'a pas nécessairement amélioré la mobilité. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'avoir, d'une part, des infrastructures pour les automobilistes, mais aussi des infrastructures pour le transport en commun. Et ça, on l'avait peut-être un peu négligé. Et donc, c'est ce qui a amené à remettre en question un petit peu les conclusions de ce rapport-là par la suite.
Mais est-ce que tu nous parles du pont du Vieux-Lévis au port de Québec, c'est le fameux troisième lien à l'est qu'on parle à l'heure actuelle?
Non, parce qu'aujourd'hui, il serait plus question de le faire passer soit par l'île d'Orléans ou soit en dessous, effectivement, du fleuve.
Ouais.
Mais il reprendrait un petit peu ce tracé-là. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait considéré par beaucoup comme impensable de faire un pont qui serait dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO du Vieux-Québec. Okay. Donc, dans les années 1960, on avait moins de scrupules avec ça. Hein. C'est l'époque où on construit la tour de l'Hôtel-Dieu en plein cœur du quartier historique.
Ouais, c'est vrai.
On se dit, ah, bon.
ah, bon, c'est là.
Ouais.
C'est là qu'on fait ça. Hey, Alex, tellement intéressant. En terminant, tu voulais nous parler de la Semaine du patrimoine?
Exact. C'est la Semaine du patrimoine qui commence ces jours-ci, donc du 17 au 26 mai. C'est la première édition que la Ville de Québec offre cette année. Et donc, c'est assez simple. 80 activités sur tout le territoire de la ville, donc autant en Beauport qu'à Cap-Rouge, que dans la Haute-Saint-Charles ou dans le Vieux-Québec. Des conférences, des visites guidées en compagnie d'archéologues sur des sites archéologiques, un grand quiz samedi soir de style génie en herbe avec des buzzers, des activités pour la famille dans les maisons du patrimoine, donc on parle d'activités de démonstration d'oiseaux de proie, des activités qui permettent aussi de faire de la courte pointe, des activités aussi de patrimoine vivant, donc des soirées de contes, des soirées de musique traditionnelle, et tout ça est gratuit.
Nice.
Donc, si vous cherchez quelque chose à faire entre amis en fin de semaine et en fin de semaine prochaine, si vous cherchez des activités à faire en famille, tapez dans Google la Semaine du patrimoine Ville de Québec, vous allez tomber sur la page et vous allez être capable de réserver. On demande de réserver aux gens parce que les places sont limitées, mais tout est gratuit, tout est accessible.
Alex Tremblay-Lamarche, merci infiniment.
Ben, c'est
toujours vraiment intéressant quand tu passes nous voir. Merci pour ce cours d'histoire sur les déplacements inter-rives Lévis-Québec. C'était vraiment une belle discussion ce matin.
Oui, puis ben, le débat est loin d'être terminé.
Ouais,
je n'avais pas remarqué. On a Jean-Yves Duclos qui s'en vient dans l'heure de neuf, fait qu'on va pas en jaser avec.
Effectivement.
Alex, merci pour ça.
Au plaisir.
À bientôt. On s'arrête deux,